Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est un homme de cœur. Regarde ailleurs vous emmène aujourd'hui à l'écoute, à la découverte de ce philosophe, écrivain, cet homme empli d'amour, Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, bonjour, merci de répondre à ces quelques questions pour mieux comprendre, pour mieux nous comprendre, mieux comprendre l'homme. L'homme, qui sommes-nous et où allons-nous ?
On va peut-être juste commencer par introduire ce lieu. Comment est née l'idée d'un tel lieu ?
Disons, le lieu, d'abord l'idée a été l'idée qui est née de la rencontre de Michel Valentin avec votre serviteur. Michel Valentin est un homme qui a donc travaillé dans l'entreprise, fait des affaires, etc. Et puis à un certain moment, Michel se pose des questions finalement sur, en se disant que gagner de l'argent, il sait faire, mais que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça ne l'intéressait plus. Et qu'il avait envie de faire de sa vie autre chose que simplement un chef d'entreprise gagnant toujours de l'argent jusqu'à la fin de ses jours. Et finalement, quand nous nous sommes concertés, il m'a dit que les idées que j'essayais de véhiculer ou les actions que je menais l'intéressaient, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Et moi, j'avais depuis longtemps en tête le fait d'avoir des lieux, en quelque sorte témoins, qui seraient des lieux dans lesquels on pourrait incarner les utopies, c'est-à-dire des utopies vraiment incarnées. Et comme lui avait des moyens et que moi, j'avais un parcours personnel avec un certain nombre d'idées, c'est la rencontre d'abord de deux consciences, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est avant la rencontre des individus, c'est la rencontre des consciences. Et à partir de là, nous avons pris la décision de réaliser quelque chose ensemble et nous avons décidé de créer donc un écosite dans lequel il y aurait une production agricole qui serait en mesure d'accueillir du public, qui serait un lieu témoin. Et c'est comme ça que nous avons décidé de la création des Amanas. Alors au début, évidemment, on a recherché un lieu. Et puis finalement, c'est ce lieu qui a été choisi dans l'environnement, pas très loin de l'habitat de Michel lui-même. Et c'est comme ça que les Amanas sont nés.
Donc aujourd'hui, les Amanins sont un centre d'agroécologie ouvert à tous, où chacun peut venir échanger, partager, s'informer, s'instruire.
Oui, nous espérons avoir, un lieu dédié vraiment à la vie, dédié à l'humanisme et à l'écologie et à la vie, de façon à ce que ce soit des lieux d'induction, c'est-à-dire des lieux qui puissent permettre aux consciences de venir se concerter, peut-être se nourrir mutuellement, mais sur les bases quand même très concrètes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un institut ou je ne sais quoi, où on ne ferait que parler, où on ne ferait que brasser des idées. Mais essentiellement, donc, le lien à la terre étant absolument essentiel, et que la terre aujourd'hui, c'est la plus ignorée. Je suis époustouflé de voir la quantité de citoyens qui ignorent ce que c'est que la terre. Ils savent pas du tout que c'est un organisme vivant, qu'il faut pas il faut pas le traiter n'importe comment, qu'il faut pas l'empoisonner, parce que si on l'empoisonne, on s'empoisonne, etc. Donc on a voulu partir quand même par cette base qui est la survie biologique et ce principe que représente la Terre dans l'histoire. Sans la Terre, il n'y a pas d'histoire. Eh bien, on a voulu un peu mêler à la fois la question agricole, et il y a aussi une école, puisque la compagne de Michel est pédagogue, et elle a donc créé une école, et on part donc depuis le petit enfant pour essayer d'amener ce petit enfant à évoluer dans le sens qui nous paraît le plus juste.
Alors un mot qui revient souvent, c'est la conscience, l'insurrection des consciences, le mot conscience. Qu'est-ce que c'est pour vous, la conscience ?
La conscience, est évidemment, c'est quelque chose qui est abstrait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est abstrait, c'est-à-dire que c'est quelque chose Évidemment, l'être humain, il a conscience. C'est d'ailleurs son grand problème, c'est que nous sommes des êtres qui naissons et nous sommes trouillards. C'est-à-dire que l'être humain a peur. Parce que nous avons en nous cette idée de nous-mêmes et cette idée qu'il existe au-delà de notre physique quelque chose qui est de l'ordre de notre intériorité, c'est-à-dire qui n'est pas... on ne peut pas le toucher, la conscience, on ne peut pas la toucher. Et chacun a sa propre conscience. Alors la conscience se construit, évidemment, c'est un don initial qui nous est donné de pouvoir justement appréhender tout ce qui est autour de nous. On ne fait pas que vivre en relation avec ce qui existe. Et en même temps, ça s'inscrit dans... Ça fonctionne dans le temps. Nous sommes dans le passé, présent, futur. Et alors qu'il semblerait que les autres créatures soient justement dans le ici et maintenant que nous cherchons désespérément à instaurer, eux, ils le font naturellement. Donc, et cette conscience fait que nous vivons des événements. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important dans la notion de conscience, c'est que nous savons que nous sommes mortels. Et ça a été terrible pour l'humanité, pour l'être humain, de savoir qu'il est mortel. C'est-à-dire, bon, alors ce qui, si nous étions vécus comme permanents, ça aurait changé la face de l'histoire. Mais nous sommes mortels. Nous savons qu'un jour, ça s'arrête. Après, est-ce qu'il y a une vie après la mort? J'en sais rien. Moi, au MEDEF, j'avais demandé s'il y avait une vie avant la mort, parce qu'on ne sait pas trop ce que veut dire vivre. On est là. On fait des choses, on se conforme à ce qui se fait, à ce qu'on nous, l'éducation qu'on nous a donnée nous dit voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà comment il faut que tu sois, voilà le bien, voilà le mal, voilà. Et chaque tradition a son bien, son mal et ses contradictions, etc. Donc tout cela, évidemment, dans cette conscience. Alors le problème aujourd'hui, est-ce que cette conscience me fait regarder cet arbre autrement, me fait appréhender le temps autrement, l'espace autrement. Donc j'enregistre en moi toutes sortes d'images, je suis plein d'images, plein de souvenirs, plein de tout ça, et je pourrais dire que c'est tout ça ensemble qu'on pourrait dire être la conscience.
Est-ce que la conscience n'est pas un peu dictée par ses croyances? Je vais agir en conscience en fonction de ma propre croyance. Mais des fois, ma croyance fonctionne dans un système, mais ne fonctionne pas dans un autre système de pensée.
Oui, c'est ce qui a en fait fragmenté le système humain. C'est que je dis parfois, si on observe la planète de l'espace, nous sommes capables d'avoir de merveilleuses photos de la planète, il n'y a rien contre rien. Il n'y a pas d'opposition entre le pôle Nord, le pôle Sud, l'Est, l'Ouest, le continent contre un autre, l'éléphant d'Afrique contre l'éléphant d'Asie, il n'y a rien contre rien. C'est-à-dire que c'est un système qu'on pourrait dire méga écologique, c'est-à-dire que cohésion et cohérence, c'est-à-dire que l'écologie nous apprend qu'il n'y a aucune créature qui roule pour elle-même. Il y a l'interdépendance. Je ne peux pas vivre si autre chose n'existe pas, je disparais. Je suis dépendant de ma nourriture, de la terre, etc. Et donc, la peur a en fait... Et quand cette même planète, nous la regardons sur une map monde, qu'est-ce que nous voyons? Un puzzle. Un puzzle de nations qui se sont toutes enfermées les unes derrière les autres dans leurs frontières. C'est-à-dire que la vision unitaire, qui est l'essence unitaire de la vie, a été fragmentée par l'humain. L'humain est le seul à s'être coupé il s'est circonscrit dans un espace. Et cet espace-là, il dit, c'est mon pays. Voilà. Donc on n'est plus dans la notion de la planète pays, on est dans la notion du fragment terrestre qui est mon pays. Ce qui veut dire que cette fragmentation amène à finalement dire j'ai un territoire, et ce territoire je dois le protéger. Protéger le territoire ça veut dire les armements, etc. etc. Et c'est le désastre. Et on a perdu l'unité fondamentale pour aller vers la fragmentation dualiste. Et à partir du moment où on est dans cette dualité, elle justifie tout le reste. la compétition. Il faut, on commence même les enfants depuis l'école, on leur apprend à être compétitifs au lieu d'être dans la complémentarité, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on instaure en quelque sorte une sorte de violence structurelle. Et cette violence structurelle devient finalement le mode du vivre ensemble. Et ensuite, bah, cette planète magnifique, bah, on l'a transformée en champ de bataille, en supermarché et en banque. Et c'est tout. Alors, et la nature, peu importe. Alors on a instauré un système qui est une insulte à l'économie qu'on appelle l'économie. Parce que l'économie, c'est pas du tout ce que nous faisons. Absolument pas. Rien à voir. L'économie, c'est au contraire, c'est une jolie discipline qui tire parti et prend soin en même temps. Et c'est pas le pillage. Aujourd'hui, l'économie englobe. Si j'achète un morceau de forêt tropicale, eh ben je vais faire du fric. Seulement, on ne dira pas que je suis en train de détruire. Je suis en train de faire de l'économie. Je suis en train de faire de l'argent. Et faire l'argent aujourd'hui, c'est avec la planète, au lieu de la voir comme une unité magnifique dans laquelle on peut instaurer un bonheur collectif, eh bien, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut prélever jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre, etc. Tout ça pourquoi ? Pour faire du fric, il faut augmenter le produit national brut.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Là, en 68, il y avait comme ça des graffitis de partout, et il y avait un des graffitis: on ne tombe pas amoureux d'un produit national brut. C'est-à-dire que l'évacuation totale, c'était l'argent ayant prépondérance, et il a évacué toutes les autres notions de beauté, de simplicité, de respect, etc. Toutes ces notions-là ont disparu parce qu'il faut être, dans le côté hard de l'économie, et c'est une fausse économie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans une impasse extrêmement grave. Et
plus grave encore, parce qu'on impose ce modèle, on veut imposer ce modèle au reste de la planète.
Oui, c'est-à-dire que l'Occident, disons l'Europe, a une responsabilité planétaire. Parce que l'Europe, elle s'est constituée sur l'idéologie qu'elle a instaurée. Cette idéologie, elle l'a d'abord imposée à l'Europe elle-même. Moi, je préférais une Europe. Je me suis régalé avec des ouvrages du 16-17e siècle, des voyageurs du 16 et du 17e siècle qui voyageaient et qui disaient: on passait d'une province à une autre, c'était magnifique, les gens n'avaient pas les mêmes vêtements, ne se nourrissaient pas de la même façon, n'avaient pas la même langue, n'avaient pas. Il y avait cette diversité extraordinaire en Europe. C'est grâce à ça que les cultures ont émergé, qu'il y a eu des œuvres d'art, qu'il y a eu toutes sortes de. Toute une créativité qui est spécifique à chaque groupe social. L'idéologie aujourd'hui, c'est une idéologie qui veut standardiser. Alors l'Europe, dans son histoire, elle a commencé par standardiser son propre territoire, donc uniformisation et standardisation. Donc toutes les provinces, les anciennes, on pouvait dire que c'était plein d'ethnies multiples. Et ensuite, cette idéologie hégémonique, par la conquête européenne des territoires, c'est-à-dire la confiscation aux autres peuples de leur propre territoire en allant s'y installer et en même temps en prélevant les ressources que ces territoires recelaient, l'Occident, puisqu'il s'agit maintenant de l'Occident, a érigé un modèle de société qu'il estime être le progrès et le vrai modèle. Et ça a été au détriment, évidemment, de toutes les cultures. Et du coup, on est en train de faire une standardisation planétaire de l'humanité. Et tout ce qui n'est pas dit moderne est attardé. Donc, il faut que les autres peuples se mettent à jour de la modernité. Sinon, pas de salut. Or, on est en train de se rendre compte que si tous les gens se mettaient à jour de la modernité, la planète serait incapable de répondre aux besoins. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on appelle les pays émergents, qui au lieu d'adapter un modèle qui soit reliés à leur propre culture et qui soient nourris par leur propre culture, qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut que nous soyons modernes. Donc ça veut dire que ça va être une accélération considérable des prélèvements des ressources planétaires. Si cette planète était... S'il y avait d'autres planètes, on pourrait dire, une fois qu'on a épuisé celle-là, on ira ailleurs. Sauf qu'on ne peut pas migrer ailleurs, c'est la seule. Et donc la raison, en quelque sorte, et l'intelligence humaine n'est pas en phase avec la réalité du monde, qui est de partir de l'idée que nous sommes dans un monde fini, et pas dans un monde infini. Et nous nous comportons comme si nous étions dans un monde infini. C'est pour ça qu'on vous dit la croissance économique est infinie, limitée, etc., qui est une horreur. Et tout ça relève d'un immense malentendu. Et si, parce que l'intelligence a manqué. C'est-à-dire que l'humanité a développé énormément de compétences. L'appareil là, c'est prodigieux. Voilà, tout est prodigieux dans ce qu'on pourrait analyser du système. Sauf que si des extraterrestres étudient l'humanité, ils sont surdoués mais crétins. Parce que on peut pas dire que c'est des gens intelligents. Comment ils pourraient dire? Ils passent leur temps à s'entrégorger. Ils détruisent le bien qu'il aurait nécessaire pour survivre. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de donner à l'argent à l'hyperpuissance, etc., etc. Comment est-ce qu'ils pourraient conclure que nous sommes intelligents? Nous ne le sommes pas. Faut arrêter de croire. Ah oui, on est doué, on peut faire des machins, des machines, des trucs compliqués, certes et complexes, mais de là à dire que nous sommes intelligents, moi j'ai des doutes, voyez.
Mais alors qu'est-ce qui manque à l'homme pour être intelligent et prendre conscience qu'il faut respecter sa terre et sa planète? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce qu'on est crétin? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller dans la science, le scientifique, le matériel, mais on pense plus à ce qui est essentiel, à se nourrir et à vivre bien ensemble?
Parce que l'intelligence n'est pas une question de cerveau. L'intelligence n'est pas, parce que je vais sortir premier de Polytechnique, c'est pas du tout ça. Ça, j'ai développé les compétences. Mais l'intelligence n'est pas de l'ordre humain. C'est-à-dire que l'intelligence est un ordre universel. C'est l'intelligence fondamentale qui a fait l'univers. Alors après, qu'on croit qu'il y a un dieu ou pas un dieu, moi j'ai du mal à imaginer qu'il n'y a pas une sémantique, c'est-à-dire une pensée derrière tout cela, une intention derrière tout cela. Et quand on examine la nature, on se rend compte qu'elle est immensément intelligente, c'est-à-dire que l'ordre de la nature est intelligent. Certes, compliqué. Certes, quelquefois on est un peu interloqué de dire le lion saute sur l'antilope et puis voilà, il y a tout ce phénomène de destruction. Mais l'intelligence n'a rien à voir avec une question de cerveau. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'écologie doit dépasser simplement l'étude des phénomènes pour essayer de comprendre plus profondément les phénomènes. Seulement le problème, c'est que je peux vous expliquer les mécanismes. Voilà comment une plante pousse, les conditions dans lesquelles elle pousse. Mais je ne pourrais jamais expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle pousse. Ouais. Donc on arrive aux limites de l'explication. Par contre, dans la phénoménologie, je peux, mais je ne suis que dans la phénoménologie. À partir de là, dire pourquoi elle pousse, pourquoi il y a cette intelligence, pourquoi une graine va rentrer dans un processus précis. Si c'est une graine de tomate, elle va donner des tomates. Si c'est une graine de blé, il donnera du blé. Et par tous ces processus, je peux expliquer évidemment par la biologie. Mais quelle est l'impulsion? Qu'est-ce qui a fait cette impulsion? Et c'est là qu'est l'intelligence. Et malheureusement, comme nous avons créé une civilisation hors sol, nous nous sommes tellement éloignés de l'intelligence de la vie que finalement, cette intelligence de la vie n'est pas présente dans nos actes. Ce qui fait qu'on fait des prouesses technologiques, mais ces prouesses technologiques se retournent contre la vie, se retournent contre nous. Ce qui veut dire qu'il manque l'intelligence. Voilà. Et l'intelligence, c'est la lumière. C'est pas une question de performance cérébrale. C'est être éclairé. Et à partir du moment où on est éclairé, là, il y a l'intelligence. Bon, mes actes sont donc éclairés par cette intelligence, et donc elle va les guider, elle va en faire des actes qui vont témoigner de l'intelligence de la vie. Et aujourd'hui, on est complètement en opposition, puisque nous détruisons la vie, nous nous détruisons nous-mêmes, bêtement, stupidement, et que nous sommes loin de cette lumière que représente l'intelligence.
TV is enough. It's providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent families. The same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier, and they're better looking, and they're much more interesting, and they're richer than your real friends and relatives.
Habille, qui êtes-vous?
Ben, si vous pouvez me le dire, je serais très, très content. J'en sais strictement rien. Bon, évidemment, chacun de nous a son itinéraire événementiel. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que je suis né dans une petite oasis du sud de l'Algérie, dans une culture musulmane. J'ai été ensuite rentré dans la culture chrétienne, etc. Mais tout ça ne m'explique pas qui je suis. Voilà.
Mais c'est à ça que je m'intéressais quand même, oui. À cette interculturalité. Donc vous êtes né en Algérie, oui. Aujourd'hui vous vivez en France. Donc déjà, est-ce que votre message est aussi écouté là-bas en Algérie? Est-ce que vous êtes sur les deux pays?
Il commence à l'être, parce que si vous voulez, on est en train de sortir de l'illusion. Aujourd'hui, on est dans une énorme déconvenue et nous sommes en train de sortir d'une illusion. C'est que de croire que nous, êtres humains, nous sommes capables de ceci, de cela, nous sommes capables de technologie, tout ce qu'on voudra, mais est-ce que nous sommes capables de donner une orientation positive à l'histoire et à notre propre histoire? On est très limité pour tout ça. Et le fait même de ne pas comprendre une chose aussi simple, je mets des produits chimiques dans le sol, ça nourrit la plante, ces produits chimiques je les retrouve dans mon corps, il n'y a rien de plus simple. Alors, est-ce qu'il faut faire des thèses et des contre-thèses pour comprendre une chose aussi simple? Donc ce qui fait que la compréhension de soi-même, bien sûr, alors qui suis-je? Il y a le Pierre Rabhi concret, physique, dans son histoire propre, dans son itinéraire propre. Mais l'individu, la personnalité, elle est intérieure. Je pense que tout le reste, c'est de l'habillage. Bien sûr, on peut dire un tel et comme ça. Et puis on est ici... on a un habillage physique multiple, mais la personne en elle-même, c'est sa conscience qui la définit. Qui je suis, c'est ma conscience. Et alors du coup, c'est pour ça que ça, il est nécessaire pour s'identifier d'essayer de se comprendre. Et rien de plus difficile que de se comprendre. Voilà. Et pourquoi ? Parce que nous sommes déjà une complexité pour nous-mêmes. Nous avons un passé, nous avons des choses inscrites en nous-mêmes qu'on n'a pas, même pas décryptées. Et on est comme ça agissant sur des... Parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, on fait comme ça. Notre éducation nous dit ça, ben on fait comme notre éducation nous dit. On nous dit voilà le bien, voilà le mal, etc. Mais la vraie personne humaine, qui est peut-être différente de la personne de la créature animale, c'est qu'elle crée sa propre identité elle-même. C'est-à-dire à travers ma vie, je construis ce que je me construis. J'ai cette capacité de me construire et de devenir ceci ou cela. Je peux devenir dictateur ou je peux devenir ce qu'on voudra. Donc c'est pour ça que qui suis-je, je n'en sais rien.
Alors ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est cette interculturalité. Vous êtes né en Algérie, oui, avec un système de pensée, de croyances qui est propre au pays. Vous êtes aujourd'hui en France avec d'autres croyances, d'autres pensées. Qu'est-ce que cette finalement bi-culture vous a apporté, ou comment est-ce que ça a permis de façonner vos idées, vos pensées aujourd'hui ?
Ben, je dirais que la première chose qui est navrante, c'est que c'est source de dualité. Moi, je suis né musulman, et en islam, on tolérait pas le christianisme, on tolérait pas le judaïsme, on tolérait, disons, à partir de là, il y a toutes sortes de formes d'intolérance. Ça, c'est l'aspect, disons, métaphysique, l'aspect le plus subtil et le plus abstrait. Deuxième strate, ben, il y a une culture. Je suis né dans une culture traditionnelle, saharienne, oasienne, etc. Et j'ai été précipité dans la modernité telle qu'elle est aujourd'hui, qui d'ailleurs a fait irruption chez nous par le charbon, etc. Donc, comme je passais d'une culture à une autre, je voyais bien que ce qui était considéré comme le bien dans l'une n'était pas forcément considéré comme le bien dans l'autre. Notamment en matière de religion. D'un côté, on dit « Ah, un saucisson, c'est magnifique, c'est bon, etc. » Et de l'autre côté, c'est une horreur, parce que il faut pas manger de porc. Le vin, tout le monde se délecte avec du bon vin. Et de l'autre côté, on me disait « Ah ben non, le vin, c'est prohibé, c'est pas... les gens qui boivent du vin sont des gens sales, sont des gens... » Et même dans cette notion de saleté, d'ailleurs c'était assez paradoxal, parce que dans ma culture traditionnelle, disaient les Européens sont des gens sales, alors qu'ils sont là avec leur hygiène, leur truc. Pourquoi ils sont sales? Parce qu'en fait, ils boivent du vin, ils mangent du porc, c'est abominable, etc. Et de l'autre côté, on disait les Arabes sont des gens sales parce que les Russes, il y a des détritus, il y a des choses. Donc toutes ces notions-là, disons, créent une espèce d'ambiguïté. Et est-ce qu'il y a dialogue des cultures? On a plein la bouche le dialogue des cultures. Certes, on peut peut-être instaurer quand même des passerelles, si vous voulez, entre les cultures, de façon à retrouver les dénominateurs communs. Mais rien que autour de la personnalité de Jésus-Christ, il y a trois religions déjà qui n'arrivent pas à s'entendre, alors qu'il a prêché l'entente. Donc on rentre dans une humanité, dans sa complexité, et finalement dans sa peur profonde. C'est-à-dire que c'est la peur qui génère toutes ces fragmentations, toutes ces réactions. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas comment appeler ça, d'être enrichi à la fois par une culture traditionnelle et à la fois par une culture moderne, mais à la fois écartelé entre les deux cultures et à la fois divisé en moi-même traduisant la division de ces cultures. Donc ce qui fait que c'est très très compliqué. Alors l'interculture, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut transcender pour aller vers quelque chose d'universel. Et aujourd'hui, l'humanité est invitée à l'universalité. Voilà. Et quand on aura compris qu'aujourd'hui, l'humanité doit tendre à retrouver sa nature fondamentale, c'est-à-dire l'universalité, à ce moment-là, je pense que le monde ira bien mieux.
Qu'est-ce que c'est que l'universalité? Qu'est-ce que c'est que la diversité des cultures?
Comment?
Quel est le lien entre l'universalité et la diversité des cultures?
Justement, l'universalité, c'est celle qui considère les cultures comme contingentes et qui considère que c'est plutôt nous sommes des êtres humains et que la connexion et la solidarité de nos âmes doit nous amener aujourd'hui à instaurer la paix sur cette planète et à ne plus continuer à entretenir cette dualité permanente qui fait que les cultures n'ont pas été forcément facteurs d'unité, d'unification, facteurs d'entente, mais très souvent à la racine de certains des conflits, comme les croyances. Au nom de Jésus-Christ, les gens se sont autant égorgés et fait du mal qu'au nom d'une conscience magnifique qui a dit c'est l'unité qui est importante et qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas de division. Et cette personnalité qui dit, quand on vient lui dire, il y a les Romains, comment les mettre dehors, etc., qui dit, aimez même vos ennemis. Et donc il y a à la racine, si vous voulez, des choses, des messagers qui nous ont invités à retrouver l'unité. Et nous n'arrêtons pas de diviser sans cesse, parce que nos croyances ne sont pas les mêmes, parce que nos idéologies ne sont pas les mêmes. On vient de sortir d'une énorme fracture entre l'Est et l'Ouest avec des idéologies. Et les idéologies tuent l'humanité. Donc il faut faire attention aux idéologies, quelles qu'elles soient. Et même l'idéologie écolo peut devenir dangereuse. S'il n'y a pas la compassion, s'il n'y a pas... Toute idéologie peut devenir... Hitler, il paraît qu'il était très, très écolo. Mais simplement, il séparait le fait de... la compréhension de la vie dans sa totalité par rapport à l'idéologie qu'il était en train de promouvoir, qui était l'idéologie de la violence et de la vengeance par rapport à l'humiliation de la guerre de 14. On ne peut pas rentrer non plus dans les arcanes, si vous voulez, de la conscience de chaque individu. Mais aujourd'hui, il faut transcender cela, et c'est pour ça que l'écologie doit être véritablement comprise comme non pas simplement défendre les rivières, etc. Il faut le faire, mais aussi comme le lieu qui va nous permettre finalement de reconnaître que tout est en tout et que tout est interdépendant, et que il y a l'interdépendance évidemment de l'écologie, parce que c'est une évidence. Dès qu'on étudie une espèce, on se rend bien compte que chaque, et même nous-mêmes, nous sommes dépendants d'autres choses, sinon on ne pourrait pas vivre. Et de l'autre côté, cette unification des consciences qui doit arriver à aboutir à dire finalement l'exaltation de la vie et l'admiration de la vie. Et on rentre à ce moment-là dans le chant symphonique. Parce que pour le moment, c'est une cacophonie abominable. Dans tous les secteurs sont cacophoniques. Les nations ne s'entendent pas, les idéologies, toutes ces choses-là sont cacophoniques. Donc il faut arriver maintenant à instaurer l'unité des consciences, et à partir de cette unité des consciences, agir ensemble en conscience et dans le but but ultime qui n'est pas détruire la planète, mais qui est au contraire exalter sa beauté et faire un paradis au lieu d'être dans l'enfer dans lequel nous sommes. Thank you.
C'est marrant parce que quand vous parlez d'écologie, on parle d'observer la beauté, donc de contemplation, d'interdépendance des phénomènes des êtres vivants. On parle aussi d'amour. Il y a un message qui paraît proche du bouddhisme, donc un peu l'écologie ou de la spiritualité, la philosophie bouddhiste. Est-ce qu'on peut faire un pont entre l'écologie et la spiritualité ou le bouddhisme ?
Bah, je ne sais pas si... Bah, disons que toute religion ou autre qui prône justement cette paix sur la planète, qui évacue en quelque sorte la violence, qui est une des caractéristiques malheureusement la plus terrible de l'espèce humaine, contribue à construire. Mais je crois qu'il y a un moment où, quand on arrivera vraiment à l'ultime réussite de l'unité, c'est quand il n'y aura plus de parole. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous parlons de tout, et je suis en train de le faire d'ailleurs. Nous voulons tout expliquer, alors qu'il y a des choses qui devraient être dans la spontanéité directe. Et nous voulons les dogmes, par exemple. Combien de livres on a écrit sur les dogmes, les préceptes, les credos, etc. Et on passe son temps à se quereller sur des virgules, sur des phrases. C'est un bon alibi pour finalement ne pas prendre en compte le fait que la vérité est simple. Elle est pas si compliquée. C'est pas compliqué du tout. Et je pense que quand on arrive à cette notion d'amour, évidemment, il faut faire attention à ce terme, parce que ce terme aussi peut être très ambigu et peut cacher beaucoup de choses qui sont pas forcément parmi les mieux éclairées. Eh bien, à ce moment-là, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Il n'y a pas plus puissant que l'amour.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Il n'y a pas plus puissant que l'amour. Il n'y a pas plus puissant. À la condition qu'il soit épuré de nous. Parce que nous aimons à condition que, etc. J'aime bien aimer à condition que. Bon, je peux dire que j'aime le vin ou j'aime pas le vin, ça mange pas de pain, comme on dit. Mais autrement, ben on est encore dans ces ambiguïtés où on fait commerce avec l'amour. C'est-à-dire qu'on ça fait partie du commerce entre nos émotions. Je ne fais pas de critique, ni je ne fais de sarcasme, ni d'humour sur cette question-là. C'est simplement, j'attire l'attention sur le fait que l'amour est tellement gigantesque qu'il n'a pas de pays. Et c'est quelque chose de tellement gigantesque que si nous le recevons, ce n'est pas simplement un sentiment qui part de nous, c'est quelque chose qui nous investit, et on se rend compte que cet amour qui nous investit, c'est l'amour aussi qui est certainement diffus dans la création, dans l'univers. Est-ce qu'il y a une intention derrière quelqu'un qui a créé, moi je ne peux pas imaginer que ces beautés soient sans une intelligence. Chacun croit ce qu'il veut. Mais à partir du moment où je dis je suis ceci et je suis cela, ça veut dire que je m'identifie, je me donne une spécificité, et cette spécificité n'est pas forcément en relation avec la spécificité de l'autre. C'est pour ça que je dirais que le religieux, c'est la transcendance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de langage, c'est le silence. Mais c'est le silence actif. Ce n'est pas un silence silencieux, c'est un silence actif, mais qui n'a pas pour objet de démontrer ou de rentrer dans les diatribes ou d'opposition à l'autre. Dès qu'il y a opposition, ça veut dire que nous ne sommes pas dans ce que je veux dire, c'est-à-dire le champ de l'amour. Ça ne veut pas dire complaisance. On doit avoir nos comptes à soi, on doit avoir notre réalité à nous, on doit avoir nos opinions. Mais dès que quelque chose crée dualité, ça veut dire que l'amour n'est plus.
Voilà. Merci, merci Pierre.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci, merci, c'était Pierre Rabhi que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'association Regard d'ailleurs, www.regardailleurs.org, dans l'onglet des émissions radio. Bonne journée, bonne écoute et bonne réécoute à vous.